Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Didier Van Kovelaert.
Bonjour Philippe.
Vous êtes romancier, plus d'une trentaine de romans, 6 pièces de théâtre, des dizaines de scénarios pour la télé, pour le cinéma, et c'est assez rare pour être signalé. Vous cumulez à la fois des prix littéraires et des grosses ventes. En général, chez les écrivains, c'est soit l'un, soit l'autre. S'il fallait ne citer qu'un seul ouvrage, Choisir un aller simple, qui vous a valu le Goncourt en 94, à l'âge de 34 ans seulement, qui est devenu un film avec Villeray. Plus récemment, deux romans, Jules et le retour de Jules, si je suis bien informé. C'est en cours d'adaptation au cinéma, vous nous le direz en fin d'heure. D'abord, votre actu, c'est ce nouveau roman, Une vraie mère ou presse, c'est chez Albin Michel comme d'habitude. Ça démarre très fort. Ma mère, qui passait rarement inaperçue, est décédée d'un coup de bière aux obsèques de son cancérologue. Donc, votre mère est morte, enfin la mère du narrateur, et s'embraye aussitôt. En 3 mois, ma mère a perdu 11 points. Elle n'a jamais conduit aussi mal que depuis qu'elle est morte. Il faut expliquer pourquoi.
Parce qu'il utilise sa voiture et il n'a pas encore fait le changement de carte grise, changement de nom. Et avec cette vitesse, flash de radar, et la contravention arrive au nom de la mère. Mmh. Alors il paye la contravention, mais c'est elle qui a perdu 2 points. Et puis, rebelote, elle perd encore 2 points. Et là, il se dit, mais si je continue comme ça, parce que la voiture est un... On l'a bichonné pendant 30 ans comme une Ferrari et c'est une Renault Fuego. Vous savez, c'est coupé
bien
un
sûr,
peu ringard.
Je vous en parle parce que vous avez une passion pour les coupés ringards. Donc voilà. On va en parler après. Mais d'abord, l'histoire de la maman.
Et donc, en version turbo-essence, hein, quand on met le pied dessus, c'est pas comme la pantoufle hybride qu'il conduit à Paris. Et là, encore un excès de vitesse. Et il se dit, mais le jour
où elle a plus le permis,
elle va. En même temps, elle va être convoquée, puisque l'administration la croit vivante, elle va être convoquée à un stage de récupération de points. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'engage une sosie ? Et il raconte ça à l'auxiliaire de vie qui s'occupe de sa tante dans sa maison de retraite, là, la seule personne encore de sa famille. Et quelqu'un entend, et c'est une comédienne à la retraite qui est...
Lucie Castagnol.
Lucie Castagnol, qui, pour payer son loyer dans la maison de retraite, fait des spectacles de stand-up devant les pensionnaires. Elle a connu la mère. Et elle a décidé de s'imposer dans le rôle, de devenir la mère pour...
Elle se déguise. Lucie Castagnol se déguise en Simone.
Pour aller passer ce stage de récupération de points. Et en fait, elle s'impose. Au début, lui dit, mais c'est n'importe quoi. Parce qu'elle a sonné à la porte, il ouvre et il est devant le fantôme de sa mère, en chair et en os.
Elle a mis les fringues.
Elle a mis la perruque, parce que
vêtements, pardon.
La mère avait coupé ses cheveux avant de commencer sa chimio pour en faire une perruque. Qu'après sa sœur avait gardé, donc elle a la perruque, elle est habillée comme elle, elle a même le parfum qu'elle a retrouvé de mémoire. La seule chose qui dénote, c'est le regard, les yeux noisettes, mais lui, ne vous inquiétez pas, je me suis commandé des lentilles bleues. Et lui, il dit, mais pas question, c'est juste une idée comme ça, vous n'allez pas aller à ce stage. Et elle dit, mais ça y est, je me suis inscrite parce que c'était hier la date limite d'inscription.
Et quel est son but ? Pourquoi elle fait ça ? Parce que ce n'est pas pour les 319 €.
Non, elle demande le prix qui est le prix du stage. En fait, voilà. Elle dit « je m'aligne sur les tarifs de la préfecture ». En fait, cette femme qui a été une comédienne, qui a joué Phèdre au Liban pendant la guerre à Beyrouth, qui a salué sous les obus, plus personne ne lui demande rien. Et là, ça va être le rôle de sa vie, qu'elle va interpréter non pas sur scène, mais dans la vie. Redonner vie à cette morte. En plus, cette femme n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Et donc, elle veut devenir mère. Et elle va s'imposer dans ce rôle. Et en fait, elle va se greffer sur l'état de manque du fils de cet orphelin, qui au début, évidemment, barbant en retraite, essaie de s'en débarrasser. Et puis, elle va réussir quand même, non seulement à le prendre de court, mais à lui donner envie d'aller au bout de ça. Parce que, comme il dit, à un moment donné, quand elle s'impose, elle dit « remettre ma mère en circulation, le temps de recharger son permis de conduire » était, en termes d'ironie comme de symbole, une suite naturelle au rallonge administratif que j'avais donné à sa mémoire.
Vous
donc
connaissez
l'incarnation de ce personnage et tout ce qui va avec, c'est-à-dire la méticulosité obsessionnelle de cette comédienne qui veut faire entendre la voix du personnage, qui veut comprendre, qui veut s'imprégner du décor de l'appartement, donc elle tape l'incruste. Et
Yvonne Kovelaert, vous connaissez votre livre par cœur ?
Ça remonte parfois, oui. Pas par cœur, non, mais comme en plus, déjà j'écris à voix haute et puis je l'enregistre en livre audio aussi, donc il y a des phrases qui remontent.
C'est, je crois que ça fait 39 ans que je fais ce métier, C'est la première fois que je vois un écrivain qui connaît son livre par cœur. Non, je suis assez bluffé. Bah, pas tout le livre, mais au moins quelques-unes. Enfin, il y en a même, j'en ai même reçu qui n'avaient pas eux-mêmes écrit leur livre. Didier Van Kovelaert écrit ses livres, il les dicte. Ça s'appelle Une vraie mère ou presque. On n'a pas encore su pour quelle raison le fils accepte de jouer cette mascarade. Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Didier Van Kovelaert est notre invité. Une vraie mère ou presque, c'est votre nouveau roman publié chez Albin Michel. Il y a un marché, il y a votre maman est morte, la maman du narrateur est morte. Elle a le permis de conduire, un permis de conduire utilisé par le narrateur, dont il se rend compte qu'il va bientôt arriver à son terme de points. Il y a un stage de conduite qui se propose pour récupérer les points. Et il y a une dame qui se propose, un peu une ancienne comédienne, Lucie Castagnol, d'aller récupérer les points. On a compris pourquoi elle a fait cette proposition. Pourquoi le narrateur accepte-t-il ce marché? Qu'est-ce qu'il recherche? Ça va au-delà des points.
D'abord, il est pris de court. Il a cette femme qui parle avec la voix de sa mère, qui ressemble à sa mère, qui a tellement travaillé le rôle par imitation, par intuition psychologique. Et en plus, elle lui dit, mais de toute façon, les risques, c'est pour moi. Quand il dit, mais usurpation d'identité, c'est grave, vous allez à un truc de stage de récupération de points. Elle dit, mais non, l'administration la croit vivante, puisqu'elle a perdu ses points. Le courrier, je ressemble à sa carte d'identité, donc il n'y a pas marqué sur la carte d'identité que vous êtes mort. Donc il dit, où est le problème? Et si jamais je me fais gauler, je dirais que j'ai voulu rendre service à mon amie Simone qui est en...
Vous m'avez pas répondu. Pourquoi le narrateur accepte et pourquoi Van Kovelaert écrit sur sa maman? Parce qu'en fait, c'est ça qui m'intéresse.
D'abord, le narrateur, elle lui représente qu'il n'y a aucun risque pour lui. C'est un enjeu si fort. Et lui, qui est un orphelin, évidemment... souffrance, qui est complètement sous le choc de cette apparition et du mal que se donne cette femme, qui très vite se rend indispensable. Parce qu'il y a une fuite d'eau, tout à coup, elle s'occupe de tout. Lui, il doit aller au Festival du Livre de Nice pendant ce temps, il est venu pour ça, il
on
est
va
coincé
dire un mot du Festival
entre
du
tout.
Livre.
Donc, il est pris de court. Et puis, quand il lui dit non au départ, et sa réaction est telle déception, qu'il se dit, mais en fait, au nom de quoi? Pourquoi casser cette énergie? Pourquoi renvoyer cette femme qui remet ma mère en vie, même si c'est pour un enjeu dérisoire, mais ça va aller beaucoup plus loin, évidemment, que le stage de récupération de
Alors,
points.
Alors, sa mère lui réclamait sans cesse. Toutes mes amies se demandent pourquoi tu n'écris pas sur moi. Et je me suis dit, en lisant ça, que c'était du vécu.
Bien vu, oui. Je pense que c'est la seule phrase sortie comme ça de la bouche de ma vraie mère et que j'ai mis dans le livre. D'ailleurs, elle avait prononcé sur... C'était un peu comme un ton de reproche par rapport à ses amis qui ne comprenaient pas pourquoi. N'empêche que... Elle me réclamait une histoire, elle me disait un jour tu me mettras dans un livre, j'espère. Donc oui, je lui devais ça, mais je lui devais un cadre romanesque, quelque chose qui rende justice à toute sa dimension, parfois un petit peu cachée derrière des non-dits, derrière l'ombre de mon père.
Parce que vous avez beaucoup écrit sur votre père. En 2007, ce roman, Le père adopté, qui était un portrait très touchant de votre papa, 2 ans après sa mort, qui était un personnage, si on vous lit, flamboyant, handicapé, excentrique. Vous vouliez équilibrer avec votre maman?
Oh non, je ne voulais pas, parce qu'il n'y a pas de cahier des charges, il y a juste des émotions qui remontent et qui demandent à prendre forme. Mais là, je savais que c'était une forme romanesque qu'il fallait. J'avais envie de faire rire ma mère tout en écrivant. Et cette écriture a été étonnamment joyeuse, parce que je lui redonnais vie, mais sous les traits d'une comédienne. Et ça me permettait d'aller très loin dans l'émotion, parce qu'il y avait cette distance, si vous voulez. Et puis je pense que l'humour est le plus court et le meilleur chemin pour aller au plus profond des émotions.
Vous dites cela d'un ton très grave, vous écrivez ceci. Je n'arrivais pas à faire revivre ma mère de façon satisfaisante, à m'inscrire dans son sillage, à maintenir mon cap et ma vitesse de croisière. Insensiblement, je dérivais vers mon père. Chaque immersion me ramenait vers celui sur qui j'avais déjà tout écrit. Alors vous parlez de votre père en parlant de votre mère, d'une manière assez amusante, et là on voit tellement que c'est vous, à travers le patronyme du père. Il n'avait qu'un seul défaut à mes yeux, je vous lis, son nom d'origine belge qui empoisonnait ma vie scolaire. J'avais beau préciser 20 fois par jour que cela se prononçait Peixwart et non pas Pixvert, les petits niçois purjus me persécutaient à coups de noms d'oiseaux et d'histoires de frites, les frites belges. Là encore, monsieur Van Kovelaert, c'est du vécu.
Alors,
vous avez été persécuté.
Bah, Mon nom, il le prononçait à Nice Caole Verte, qui veut dire chou vert. Donc, on va dire que oui, c'est un clin d'œil de proximité. Mais dis donc, vous avez bien travaillé votre accent flamand, hein. Peinswart.
Non. Vous savez comment j'ai fait?
Non.
Vous l'avez écrit en phonétique dans le livre, oui. Et je l'ai lu tel que vous l'avez écrit. Voilà comment c'est passé.
Oui, voilà ce que c'est que de lire vraiment les livres.
Un mot, votre maman roule en Renault Fuego Turbo Essence, une voiture qui ressemblait un peu à rien en même temps qu'elle ressemblait à une voiture de sport.
Ah ouais.
135 chevaux, je ne savais pas qu'il y avait ça, ça freine pas
en
très bien.
En version Turbo Essence, oui.
Pourquoi j'en parle? Parce que dans votre précédent roman, L'Inconnu du 17 mars, c'était une Jaguar Mark 10. Dans celui d'avant, La Personne de Confiance, il y avait une vieille fleurie de Renault. Pourquoi cette passion pour les vieilles voitures bancales?
Oh, bah ça, c'est depuis
parce que c'est romanesque,
c'est depuis l'enfance,
parce que c'est plus marrant à raconter quand on écrit un roman.
Ce qui m'intéresse dans les décors, et c'est aussi un décor, une voiture, ce sont des pièges à mémoire, des pièges à émotion. Et là, cette voiture qu'il a gardée, il l'a gardée en l'état. Il y a encore le chapeau de paille de la mère à l'arrière, il y a ses cigarettes dans la boîte à gants, et il y a même le dernier mégot de sa vie dans le cendrier qu'il n'a pas vidé. Il a un peu, bon ça c'est moins empire, il a un peu un profil de conservateur de musée.
J'ai compris, et ça marchait pas pareil avec une hybride.
Non, et en plus il fallait une voiture à histoire, une voiture dans laquelle elle avait un rapport voilà, passionnel.
On continue à parler de roman, de son roman avec Yvan Kovlart. C'est Nicolas Carreau qui arrive, Culture Média continue.
9h-11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Didier Van Kovlart, c'est son dernier roman, Une vraie mère ou presse, c'est publié par Albin Michel. On continue à parler littérature avec vous, Nicolas Carreau. Rebonjour.
Rebonjour.
Nicolas, vous nous présentez toute cette semaine spéciale, un à un, les 5 romans sélectionnés pour le prix Europe 1 GMF. Il sera décerné le 9 juin, faut-il le rappeler. Voici donc le troisième roman sélectionné, il s'appelle Les jours suivants.
Chez Kalman Levy, signé Caroline Serre, ou peut-être Serre, ça s'écrit
S-E-R-S,
je ne sais pas. L'idée est géniale, vous allez voir, ça se passe dans un village, un vrai, dans la campagne qui ne fait pas semblant. On peut penser que c'est en Corrèze, puisque l'auteur y est né, mais peu importe. Il y a là Julien, Béatrice, Corinne ou Pierre, entre autres. Dans ce village, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des néo-ruraux. Vous savez, des gars de la ville qui un jour en ont eu marre du bruit, du stress, du bureau et qui partent dans les campagnes pour faire de la permaculture ou des meubles en palette.
Grosse tendance. Qu'est-ce qui leur arrive alors?
Un jour, c'est le blackout, panne d'électricité générale, mais pas que dans le village, à grande échelle, sans doute un acte terroriste, on ne sait pas trop. Toujours est-il que c'est l'hiver, il fait froid. Plus de chauffage, on ne voit plus rien, évidemment, la nuit. Et donc, on commence à avoir peur des pilleurs, des profiteurs, des malfaisants. Même l'eau, on n'est pas sûr qu'elle soit encore potable. Et ça dure, et ça dure.
Un retour à la vie primitive.
Exactement, il faut faire une sorte de reset, parce qu'on a complètement oublié comment faire sans tout ce confort. C'est un idéal de simplicité, mais un cauchemar quand vous le vivez. Seule solution, s'organiser et s'entraider. Les habitants se retrouvent donc dans le café du village pour survivre ensemble. C'est ça le nœud de ce roman. Comment fonctionne l'humanité confrontée à la difficulté généralisée au danger, et ben c'est le pire et le meilleur, et c'est ce qu'explore Caroline Serre. C'est un roman sur la solidarité, sur les liens sociaux, mais aussi sur l'effondrement, mais raconté avec énergie. Et d'ailleurs, j'ai l'air de vous parler d'un roman social comme ça, mais ça commence avec deux pages en italique, une femme qui court, qui se cache dans un bois. On sait pas trop qui elle est, ce qu'elle fuit. Faudra lire pour savoir.
Il faut toujours lire pour savoir avec Nicolas Carreau. Les jours suivants, donc, de Caroline Serre. Ou Caroline Serre, c'est chez Kalman Levy, sélectionné pour le prix Europe 1 GMF, décerné le 9 juin. Ça vous a tenté rien que le pitch, Didier Van Kovlart?
Oui.
Vous êtes un grand
lecteur. Je ne suis pas un grand lecteur parce que j'ai peu de l'écriture me laisse peu de
voilà,
temps, mais
ma
chaque soir, et puis pendant les trajets, oui, je lis, je relis aussi beaucoup ce que j'ai aimé. Mais j'adore découvrir. Ma dernière découverte, et là vraiment, ça m'a impressionné, c'est un livre que je n'avais pas envie de lire, parce que c'est sur le sujet des attentats, des suites, et en fait, c'est Thierry Vimal, j'ai un problème sur le titre, vous allez m'aider, au titre des souffrances endurées, je ne suis pas sûr qu'il soit complètement...
Dites-nous ce que ça raconte,
titre.
Et pendant ce temps, on aura le temps de trouver en régie le titre exact.
Eh ben, en fait, après un attentat, c'est un adolescent qui a perdu son père dans un attentat à une terrasse, et lui-même a tiré dans la jambe. Et il y a bien sûr toute cette horreur de l'attentat, mais surtout, il y a les conséquences administratives, quel est ce parcours du combattant qu'on fait vivre à ses victimes pour leur donner un tampon, un truc de... Et là, il y a un humour là-dedans administratif de ces absurdités administratives et de toutes les récupérations des associations, des bien-pensants. Et c'est raconté avec le point de vue de ce jeune survivant. C'est terrible. Et par moments, et réussir, c'est là où je dis chapeau, réussir à à ce que l'humour prenne le pouvoir sur la tragédie, chapeau. Et l'émotion va encore plus loin.
Caroline Serre se moquait un peu des néo-ruraux. Vous moquez des bobos dans votre livre au passage. Vous
dites c'est moi qui m'en moquais. Surtout.
Sa belle-fille lui avait offert pour la seconde fois un des prestigieux pulls équitables façon mohair en bouteille d'eau recyclée qu'elle faisait fabriquer en Chine et étiqueter dans la Drôme.
Oui, bah alors... Il est évident que la mère n'a pas un très bon rapport avec sa belle-fille.
Comme non,
mais
on la reconnaît quand même.
Assez souvent.
Le vrai faux bio, ça commence à exister.
Voilà, mais elle est... bon, cela dit, elle recycle des bouteilles de plastique pour faire des pulls. Et la mère, évidemment, quand elle reçoit ce cadeau pour la deuxième fois à Noël, elle lui dit « Ah, oh, je vais peut-être pouvoir le porter, celui-ci, j'ai trouvé une crème qui empêche les allergies au plastique. » Donc, au poêle de plastique. Et la même mère qui dira, oui, à qui elle dit, son fils, toi, tu recycles tes sentiments dans des livres, et elle recycle du plastique, et vous croyez que vous êtes un couple assorti.
Oui, vous connaissez votre livre par cœur. Dit Evan Kovlard, j'avais jamais vu ça. Et puis alors, vous racontez un salon du livre, c'est assez savoureux, parce que Nicolas Caro les connaît, les salons du livre, mais ça ne vous a pas plu. Pourquoi ? Parce qu'on est en pleine pandémie. Je prends un passage comme ça, entre une dizaine. Les manifestants entreprenaient de forcer l'entrée du festival, interdit aux sans-pass, neutralisaient le scanner à QR code à grands jets de pistolet à peinture. Les autorités avaient exfiltré de l'enceinte les noms badgés. Vous avez vraiment connu ça ? Vous avez fait un papier rageur dans Le Point en septembre, où on avait le droit d'aller sous des halles quand on vendait du miel ou des courgettes, mais pas des livres.
Oui, ça c'était à Fuveau, près de Marseille, au salon de Fuveau.
Avec du grillage.
Voilà, et les auteurs grillagés, tandis que les producteurs d'autres choses. Et c'est là où j'ai fait cette chose un petit peu provoque, c'est-à-dire que je suis allé côté producteur, avec mes bouquins, je me suis assis sur un ballot de paille à côté des vendeurs de fromage de chèvre et
là, vous avez
salade.
Le droit.
Et puis, j'étais un producteur de livres.
Ouais.
Donc là, il y a eu un reportage de la télé. Ça faisait marrer. Non, je pense qu'il faut simplement...
Vous, ça ne vous a pas fait marrer du tout.
Non, mais ça me fait marrer aussi. Je veux dire, moi, mes indignations sont toujours sur le ton de l'humour, parce que je ne suis pas un lanceur d'alerte uniquement, mais simplement faire comprendre aux gens que c'est un petit peu absurde quand même, ce qu'on est en train de vivre. Il ne faut pas que ça devienne naturel, parce que c'est répété tout le temps. Donc c'est un peu...
Nicolas Caro a retrouvé le titre du livre dont vous parliez et le nom de
au
son
titre
auteur.
Au titre des souffrances.
Nicolas.
Exactement. Ouais. Au titre des souffrances endurées, c'est au Cherche Midi, Thierry Vimal.
Voilà. Et remontrez le livre de Caroline Serre, qu'on n'a pas vu la couverture.
Les jours suivants,
nous voit
chez Calman
sur
Lévy.
Europe1.fr. Je vais être complet. On va faire une battle de livres. Ivan Kovlart, une vraie mère ou presse, Culture Média continue. On va parler de cinéma. Ne coupez pas. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
On parle de littérature avec Ivan Kovlart, mais aussi on va parler de cinéma avec lui. On parle aussi de cinéma avec Olivier Benkemoun. Rebonjour.
Bonjour Philippe.
Qui n'était pas avec nous à 10h, parce qu'on s'est déjà salué à 10h, mais c'est ça, on se dit
on
bonjour
le faire
plusieurs
sans
fois.
Arrêt. Bonjour Philippe, donc, comment ça va Philippe?
Je vais très bien, d'autant que votre indispensable a été projeté hier en ouverture du Festival de Cannes. C'est Coupé, le nouveau film de Michel Hazanavicius.
Alors petite parenthèse, je ne sais pas si vous avez regardé l'ouverture du Festival de Cannes, il y a eu un événement quand même, un événement politique.
Le président Zelensky
qui s'est adressé à ce petit monde du cinéma, il est comédien, il faut le rappeler, en disant, est-ce qu'il y a parmi vous le nouveau Chaplin, celui qui mettra à bas le dictateur? Et je vais vous parler
avec une phrase extraordinaire, depuis Chaplin, le cinéma n'est plus muet.
Exactement. Là, c'est pas. Je vais pas vous parler de cinéma muet. Je vais parler d'un film de zombies. Ce qui est intéressant, c'est que les films de zombies sont des films politiques. Enfin, depuis Romero, puis la fin des années 60, sont des films politiques. Zombies ou le retour des morts vivants. Les morts vivants, quand Romero le fait, ça parle de la guerre du Vietnam, le démembrement, arracher les têtes, etc. Ça parle de la guerre du Vietnam et par la suite de la violence de la société qui se déchire. Bon, là, c'est pas tout à fait un film politique. Ce que fait Michel Hazanavicius, c'est plutôt une comédie autour d'un film de zombies.
Fais tes adieux, sac à merde! Saloperie de zombies!
Bon, ça, c'est pour vous mettre dans l'ambiance.
Ouais,
hein. Voilà, Michel Hazanavicius, je vous emmène sur le tournage d'un film de série Z. Vous voyez, vraiment ce genre de film bricolé avec rien, mais quand même avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hémoglobine, beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Et quand je dis série Z, moi, je suis gentil à côté de Michel Hazanavicius.
Série Z, ouais, mais on appelle ça aussi navet, bouse, nanar, grosse merde. Enfin, il y a plein de... Ça dépend dans quel journal on travaille.
Voilà, ça dépend. Nous, on travaille dans une entreprise de presse qui est très bien. Donc, on dit série Z. Alors, coupez. Et de quoi s'agit-il? Vous voici sur le plateau d'un tournage absolument catastrophique, où tout part en cacahuète, rien ne se passe comme prévu, c'est le Titanic. D'autant que le film doit être fabriqué en direct et en un seul plan séquence. Et le réalisateur, qui est joué par Romain Duris, essaye, comme il peut, de limiter la casse sans vraiment y parvenir, surtout quand il s'agit de motiver ses acteurs. Il a une forme de management qui va vous plaire.
On voit que tu joues, mais en plus on voit que tu joues mal. Moi, je veux de la sincérité. Ok ? Je veux pas de fausses larmes. Je veux des vraies larmes !
Voilà, ça s'appelle trouver les mots, ça. Hein. Ouais. On suit l'équipe du film depuis la lecture du script jusqu'à la fabrication des trucages. Et qui dit film de zombies dit membres arrachés, têtes coupées, litres de faux sang utilisés. Ce qui a beaucoup d'ailleurs amusé Michel Hazanavicius, réalisateur, je le rappelle, oscarisé pour The Artist, qui n'avait jamais vraiment pensé manier ce type de matériel.
Ouais, c'est vrai que des grands coups de hache avec du sang partout, la décapitation, c'est assez marrant à faire, mais qui se prend pas plus au sérieux que ça. C'est pas du tout un film gore, c'est des zombies de bébés, quoi.
T'as coupé. Au final, c'est un film qui rend hommage au cinéma, c'est une parodie. Enfin, Michel Hazanavicius, il spécialise des parodies, Le Grand Détournement, OSS, etc. En tout cas, ce qu'a voulu montrer le réalisateur, c'est que même un film très très mauvais, mais alors vraiment très mauvais, ce qui compte, c'est que ceux qui le fabriquent le font comme si leur vie en dépendait. C'est avec Romain Duris, Bérénice Bejo, Finnegan Oldfield, Grégory Gadebois, Jean-Pascal Zadi qui a un rôle absolument formidable. C'est l'ingénieur du son qui est censé faire la musique en direct. Puisque tout se passe
tout en direct.
Oh là là. Il est vraiment en galère. Coupé, film d'ouverture du 75e Festival de Cannes, hors compétition. Et dès aujourd'hui dans vos salles.
Wow.
Coup de hache.
Générique. Et demain, on parle de Tom Cruise.
Évidemment, Tom Cruise est sur la croisette. Ça fait plus de 30 ans qu'il n'est pas venu sur la croisette. Il vient présenter Top Gun, Maverick. Et pour le récompenser, d'être là, pour le remercier, la patrouille de France sera là. Et moi, je vous raconterai ça. Et surtout, sa masterclass qu'il va donner, parce qu'il ne va pas donner beaucoup d'interviews, mais il va faire une grande masterclass.
C'est un film européen.
Et c'est un film européen, absolument, vous avez raison.
Masterclass, je ne savais pas comment le dire. Est-ce que ça vous a tenté d'aller voir couper Eric Van Cogelaart? Et sinon, est-ce que vous êtes cinéphile également?
J'ai changé de prénom.
J'ai oublié de noter le nom, Didier Van Cogelaart. Merci.
Non, mais vous lisez les livres, mais vous retenez mal les prénoms.
Vous avez raison.
Faut voir. Là, j'ai vu un film qui m'a emballé, c'est Les Folies Fermières. Jean-Pierre Améris avec Alban Ivanov, Sabrina Ouazani et Michel Bernier.
Histoire truculente, racontez l'histoire.
Oui, mais c'est une histoire vraie. C'est un paysan qui est en train de perdre sa ferme, qu'on l'oblige à vendre et pour la sauver. Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? De monter un cabaret dans la grange et d'aller faire un casting, d'engager les gens. Il y a toute la détresse du monde paysan, toute l'absurdité cruelle des fossoyeurs administratifs qui mettent à mort ces gens. Et puis cet espoir des saltimbanques en déroute qui tout à coup retrouvent un goût de vivre et un enjeu à aider ce paysan à sauver sa peau. Quoi. C'est un très beau film.
Même quand il parle d'un film qui n'est pas de lui, il en parle bien, c'est Didier Van Cogelaart. Et on va parler des films à la base desquels vous êtes. Culture Média continue. Je salue Olivier Benkemoun. Je dis à demain à Tom Cruise. Culture Média continue.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Didier Van Cogelaart, Une vraie mère ou presse, c'est votre nouveau roman. Il pourrait devenir un film?
Il y a déjà de l'intérêt, oui. Il y a déjà des comédiennes qui ont manifesté leur envie d'incarner ce double rôle de la comédienne qui incarne cette mère et qui devient finalement une vraie mère par besoin d'exister, par amour aussi. Et avec ce besoin de faire quelque chose de toute cette énergie de vieille dame à qui on ne demande plus rien.
Vous connaissez comme moi le cinéma, c'est moins difficile de trouver une comédienne qui veut tourner dans un film qu'un producteur qui veut le financer. C'était ça le sens de ma question. Est-ce qu'il y a déjà des producteurs qui s'y sont intéressés?
Il y a déjà des demandes, mais c'est encore un peu frais pour moi.
Alors donc, il faut pas aller plus avant parce que ça porte la poisse d'annoncer les projets trop tôt.
Absolument.
Il faut jamais faire ça, c'est un très mauvais service qu'on rend aux auteurs. Quand vous écrivez, vous pensez au cinéma ou pas du tout? Parfois un livre est cinématographique et parfois un autre l'est moins ou
non,
ne l'est pas.
Et puis on a l'impression que c'est parce que c'est... On me dit c'est votre livre, c'est on dirait c'est presque un film.
C'est un film. Mais en plus, on n'a pas dit que tout se passe à Nice, donc c'est très très spectaculaire. Les décors sont spectaculaires aussi.
Mais c'est l'oreille, c'est à l'oreille moi que je travaille. Donc ce sont les sons qui créent les images. Mmh. Et je fais peu de descriptions finalement. Donc après, il y a un gros boulot d'adaptation à faire sur les livres. Mais le lecteur se fait son propre film en lisant. Mais c'est un...
Non, vous pour avez moi, pas
je pense pas au cinéma. Je donne jamais les traits d'un comédien à mes personnages. Ils arrivent avec leur nom, ils imposent leur nom, leur visage un petit peu. C'est-à-dire que c'est comme un casting, en fait, les personnages de fiction. À un moment donné, ils changent de nom, ils changent de physique jusqu'au moment où je sens que ça fait vrai. Ils arrivent avec une vérité
Et là, je sais que je peux les mettre en situation.
Boudiner dans une salopette en jean vert, une sexygénaire aux cheveux roux coupée Jeanne d'Arc venait de surgir à grands pas du couloir. Et je me suis dit, tiens, il a quelqu'un en tête quand il écrit cette phrase. C'est la description de Lucie Castagnol.
Non, j'ai vraiment Lucie, elle s'impose comme ça, avec le détail, si vous voulez, qui fait image. Et là encore, quand je vous dis je travaille aux sonorités, c'est ça. On voit l'image, il y a très peu de descriptions, mais on sent surtout l'énergie du personnage.
C'était une des rares descriptions du livre. Le Figaro, c'était en mai l'an passé, dressait ainsi votre portrait. Voilà le titre. Didier Van Kovelaert, Monsieur 1000 projets. D'où ma question. On ne va pas tous les faire, mais au moins, racontez-nous 990 projets. En vrai, vous êtes sur quoi? Parce qu'il y a vos deux précédents romans, Jules, Le Retour de Jules, étaient en cours d'adaptation.
Alors, c'est en cours d'adaptation. Là, c'est pas moi, c'est Guillaume Ayachevski qui va faire le film, qui est un merveilleux réalisateur.
Deux romans, mais un seul film.
Et on va voir, en tout cas, déjà Jules, et puis on verra après pour le deuxième opus.
Et puis, alors, j'ai une question récurrente pour Van Kovelaert, parce que chaque fois qu'il vient, c'est la même. La personne de confiance, c'était votre roman sorti au printemps 2019, devait devenir un film. Où en êtes-vous?
Oui, ben ça y est, enfin là,
tous les jours.
En principe, je le tourne dans un an et j'ai un casting formidable dont je ne peux pas encore parler tant que tout n'est pas signé. Et puis là, le sort du film va peut-être se décider à Cannes, où la productrice a rendez-vous avec plusieurs distributeurs intéressés. On va voir.
Quand vous dites je le tourne, ce sera vous le réalisateur.
Oui, oui.
Vous êtes débarrassé du Goncourt, vous l'avez eu à 34 ans. Vous êtes débarrassé de l'Académie française?
Débarrassé, c'est sûr qu'elle... pas le terme que j'aurais employé. Non, c'était un merveilleux cadeau, le prix Goncourt. Et, l'Académie...
Non, on dit qu'il faut l'avoir comme ça pour passer à autre chose. Parce que sinon, on y pense toute sa vie, disent les romanciers qui ne l'ont pas eu.
C'est-à-dire, le danger, c'est l'autocensure après. Mm-hmm. C'est de dire, je veux faire tel livre qui aura le profil du Goncourt. Or, j'ai eu le Goncourt avec un livre qui n'avait pas du tout le profil attendu des Goncourt, un roman iconoclaste qui n'était pas du tout fait pour. Donc,
vous n'avez pas répondu à mes questions sur l'Académie.
Alors, l'Académie...
Parce que vous étiez recalé. Vous avez allé vers Yergan,
la première fois, et la seconde fois, c'était une élection blanche, le même nombre de voix que Claude Durand sur le fauteuil de Félicien Marceau.
Parce que vous avez vu qu'il y a candidatures de Franz-Olivier Gisbert et Marc Lambron qui ont été retoquées, recalées, j'ai oublié le terme exact. Est-ce que vous êtes toujours candidat ou est-ce que vous avez jeté l'éponge?
Non, ce n'est pas jeter l'éponge. Moi, j'ai besoin d'un enjeu humain. Et je vais vous dire pourquoi je me suis présenté. J'ai eu la chance d'avoir, dès mon premier livre et mes premières pièces, des auteurs, de grands auteurs que j'admirais, qui sont intéressés à mon travail. Le premier prix qui m'a été donné pour mon premier livre, c'était Maurice Schumann, La Voix de la France Libre, qui me fait un discours au Salon du Livre de Nice, d'ailleurs, où il parle de moi au passé. J'avais l'impression que j'étais mort et que c'était un éloge funèbre. J'adore ce décalage de situation. Et longtemps, Maurice Schumann m'a dit « Puissais-je être encore de ce monde quand vous vous présenterez à l'Académie ?» Il est mort, je ne m'étais pas présenté. Et puis d'autres grands noms m'avaient invité à venir parmi eux. Et puis un jour, Félicien Marceau, qui était l'un d'eux, m'appelle et me dit « Je vous ai toujours dit que j'aimerais bien être encore vivant quand vous vous présenterez. Je sors de chez mon médecin et il me dit « Il vous conseille de ne pas trop tarder.
» Et là, franchement, drôle,
un coup de cœur et un éclat de rire. Et j'ai envoyé ma lettre tout de suite. Donc voilà, il faut ce genre d'enjeu. Et la seconde fois, c'était sur le fauteuil de Félicien Marceau. J'avais vraiment envie de parler de cet immense auteur de romans et de théâtre que je ne voudrais pas qu'on oublie.
10h54, c'est l'heure des stories de Marc-Antoine Lebré. Tous les jours, il y a des stars qui viennent rencontrer notre invité. Et ce matin, Didier Van Kovelaert, le critique littéraire Augustin Trapenard est là pour vous.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Boomerang. Boomerang qui, je vous le rappelle, n'est pas comme mon ex, car le boomerang, il revient. Didier Van Kovelaert, bonjour. On va commencer tout de suite avec la question que j'appelle la question cystite, car elle me brûle les lèvres. Vous êtes devenu écrivain pour plaire à votre père, qui aurait voulu lui-même être écrivain. Du coup, est-ce que vous auriez fait un choix de carrière différent s'il avait voulu être acteur porno? Après, ça ne change pas grand-chose, Didier. Philippe Vandel vous aurait quand même reçu, mais dans le journal du Hard.
Évidemment. Nicolas Sarkozy, vous parlez, Didier.
Bonjour, monsieur Van Kovelaert. Bonjour, monsieur Didier. M'en voulez pas, c'est juste que depuis le juge Van Ruymbeek, j'ai du mal avec les noms flamands. Faut tout vous dire, quand je réserve un Uber, je ne choisis même plus le van. Je ne peux même plus apprécier la musique de Van Gogh ou les tableaux de Beethoven. C'est de la culture, quand même. Sinon, j'ai lu que vous disiez être entré en contact via une médium avec Nikola Tesla et Albert Einstein. Moi aussi, je rentre en contact avec des morts. Hier, j'étais en réunion avec les Républicains.
Laurent Delahousse est également avec nous ce matin, Didier.
Bonjour à tous et surtout bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien avec ces fortes chaleurs, mais pas d'inquiétude, vous aurez moins chaud quand j'aurai quitté le studio. En tout cas, attention à la déshydratation, les filles, car avec moi, ça coule des litres. Bref, si je suis passé ce matin, c'est parce qu'avec Didier, on a un point commun. Comme vous, je communique avec des personnes de l'au-delà, puisqu'à chaque fois que je parle avec Mélanie et Julia, elles sont au 7e ciel. Les filles, bienvenue sur De La Housse Airlines, deux réacteurs et son gros moteur, qui lâche du kérosène. Mélanie, Julia, voulez-vous tenir le manche pendant le vol ?
Non, merci, merci Laurent Delos, on a compris, on va s'arrêter là. Merci
Coucou
beaucoup
mes copilotes.
Merci beaucoup Marc-Antoine Lebray, je vous dis à demain. Je dis merci à Die von Kovelaert, une vraie mère ou presque, c'est à lire, c'est chez Albin Michel. Nous, merci. On se retrouve demain à 9h. Il y aura Marc-Antoine Lebray, évidemment. Il y aura la série d'animation et satirique Les Cassos, dans laquelle il y a des personnages de la culture populaire comme Astérix ou Lara Croft qui sont amenés à se rencontrer et qui rencontrent une assistante sociale. On sera avec le réalisateur et la scénariste Camille Fevez. Et puis la romancière Lynn Papin pour un roman Une vie possible, roman très personnel autour de l'IVG. Juste après le flash, Julia Vignali, on les a entendus, Mélanie Gomez.
Bonjour Julia.
Bien fait
bonjour
pour
Mélanie.
Vous. C'est le nom de l'émission, le programme du jour.
Alors aujourd'hui, Philippe, un sujet qui va vous intéresser, voire même vous aider personnellement. Ah. Oui, écoutez bien, parce que je crois que vous souffrez d'un problème de mémoire des visages.
Exactement, de reconnaissance.
Ça, comment ça s'appelle déjà ?
La prosopagnosie, voilà. Je ne reconnais pas les visages.
Donc bref, on va parler de mémoire au sens large. De mémoire au sens large, comment la booster, quel que soit votre âge, car c'est à la portée de tous. Et puis nous parlerons également de lecture, mais cette fois de lecture jeunesse, avec Nathalie Le Breton, qui a choisi donc un tas de livres pour essayer de faire manger les enfants les plus récalcitrants à table. Et puis on parlera alimentation tout court avec Sophie Menu, qui viendra nous faire du carpaccio.
Sophie voilà. Menu parlera d'alimentation.
Voilà. Ouais,
on aurait voulu le faire exprès, on n'y serait pas arrivé. Merci beaucoup, bonne journée à l'écoute d'Europe 1. Salut Didier Van Kovelaert.
Europe 1.
Entrez dans l'histoire avec Paris Match.
Coulisses, archives, enquête exclusive, Paris Match lance son offre d'abonnement 100% numérique. Tous les articles de parismatch.com en illimité, le magazine en version numérique la veille de sa parution, nos newsletters politiques et royauté, à découvrir dès maintenant sur parismatch.com.
Paris Match, le poids des mots, le choc des photos.